Joris Karl Huysmans, Un dilemme. Dans la salle à manger meublée d'un poêle en faïence, de chaises canées à pied tord, d'un buffet en vieux chêne fabriqué à Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine, et contenant derrière les vitres de ses panneaux des réchauds en revolts, des flûtes à champagne, tout un service de porcelaine blanche liserée d'or, dont on ne se servait du reste jamais, sous une photographie de M. Thiers, mal éclairée par une suspension qui rabattait la clarté sur la nappe, Maître Le Ponsard et M. Lamblois plièrent leurs serviettes, se désignèrent d'un coup d'œil la bonne qui apportait le café et se turent. Quand cette fille se fut retirée, après avoir ouvert une cave à liqueur en palissandre, M. Lamblois jeta un regard défiant du côté de la porte, puis, sans doute rassuré, prit la parole. « Voyons, mon cher Le Ponsard, dit-il à son convive, maintenant que nous sommes seuls, causons un peu de ce qui nous occupe. Vous êtes notaire au point de vue du droit. Quelle est la situation exacte ?»« Oh, celle-ci, répondit le notaire en coupant avec un canif à manche de nacre qu'il tira de sa poche le bout d'un cigare. « Votre fils est mort, sans postérité, ni frère, ni sœur, ni descendant d'eux. Le petit avoir qu'il tenait de feu sa mère doit, au terme de l'article 746 du Code civil, se diviser par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. Autrement dit, si Jules n'a pas écorné son capital, c'est 50 000 francs qui reviennent à chacun de nous. » « Bien, reste à savoir si par un testament le pauvre garçon n'a pas légué une partie de son bien à certaines personnes. » C'est un point qu'il est en effet nécessaire d'éclaircir. Puis, continua M. Lamblois, « en admettant que Jules possède encore ses 100 000 francs et qu'il soit mort à un testat, comment nous débarrasserons-nous de cette créature avec laquelle il s'est mis en ménage ? Et cela, ajouta-t-il après une minute de réflexion, sans qu'il y ait de sa part tentative de chantage ou visite scandaleuse venant nous compromettre dans cette ville. Mais c'est là le hic. Mais j'ai mon plan. Je pense expulser la coquine sans grosses dépenses et sans éclat. Qu'est-ce que vous entendez par sans grosses dépenses ? Oh, une cinquantaine de francs au plus. Sans les meubles ? Bien entendu, sans les meubles. Je les ferai emballer et revenir ici par la petite vitesse. Parfait, conclut M. Lamblois, qui rapprocha sa chaise du poêle à la porte chatière duquel il tendit péniblement son pied droit gonflé de gouttes. Monsieur Le Ponsard humait un petit verre. Il retint le cognac en sifflant entre ses lèvres, qu'il plissa de même qu'une rosette. Fameux, dit-il. C'est toujours le vieux cognac qui vient de l'oncle ? Oui, on n'en boit pas le pareil à Paris, fit d'un ton catégorique Monsieur Lamblois. Certes. Mais voyons, reprit le notaire. Bien que mon siège soit fait, comme l'on ne saurait s'entourer de trop de précautions, récapitulons, avant mon départ pour la capitale, les renseignements que nous possédons sur le compte de la donzelle. Nous disons que ses antécédents sont inconnus, que nous ignorons à la suite de quels incidents votre fils s'est épris d'elle, qu'elle est sans éducation aucune, cela ressort clairement de l'écriture et du style de la lettre qu'elle vous a adressée et à laquelle, suivant mon avis, vous avez eu raison de ne pas répondre. Tout cela est peu de choses, en somme. Et c'est tout. Je ne puis que vous répéter ce que je vous ai déjà raconté. Quand le médecin m'a écrit que Jules était très malade, j'ai pris le train, suis arrivé à Paris, et trouvé la drôlesse installée chez M. mon fils et le soignant. Jules m'a assuré que cette fille était employée chez lui en qualité de bonne. Oh, je n'en ai pas cru un traître mot. Mais, pour obéir aux prescriptions du médecin, qui m'ordonnait de ne pas contrarier le malade, j'ai consenti à me taire. Et comme la fièvre typhoïde s'aggravait malheureusement d'heure en heure, je suis resté là, subissant jusqu'au dénouement la présence de cette fausse bonne. Elle s'est d'ailleurs montrée convenable, je dois lui rendre cette justice. Puis le transfert du corps de mon pauvre Jules a eu lieu sans retard, vous le savez. Absorbé par des achats, par des courses, je n'ai plus eu l'occasion de la voir et je n'avais même plus entendu parler d'elle. Lorsqu'est arrivée cette lettre où elle se déclare enceinte et me demande en grâce un peu d'argent. « Oh, prélude du chantage !» fit le notaire après un silence. « Et comment est-elle en tant que femme ?»« C'est une grande et belle fille, une brune avec des yeux fauves et les dents droites. Elle parle peu, fait l'effet, avec son air ingénu et réservé d'une personne experte et dangereuse. J'ai peur que vous n'ayez affaire à forte partie, maître le Ponsard. Bon, faudrait que la poulette ait de fières quenottes pour croquer un vieux renard tel que moi. Puis, j'ai encore à Paris un camarade qui est commissaire de police et qui pourrait au besoin m'aider. Allez, si rusée qu'elle puisse être, j'ai plusieurs tours dans mon sac et je me charge de la mater si elle regimbe. Dans 3 jours, l'expédition sera terminée. Je serai de retour et vous réclamerai, comme honoraire de mes bons soins, un nouveau verre de ce vieux cognac. Et nous le boirons de bon cœur, celui-là, s'écria M. Lambois, qui oublia momentanément sa goutte. « Oh, le petit nigaud !» reprit-il, parlant de son fils. « Dire qu'il ne m'avait point jusqu'alors donné de tablature. Il travaillait consciencieusement son droit, passait ses examens, vivait même un peu trop en ours et en sauvage, sans amis, sans camarades. Jamais, au grand jamais, il n'avait contracté de dette, et tout à coup, le voilà qui se laisse engluer par une femme qu'il a pêché où, je me le demande. C'est dans l'ordre des choses. Les enfants trop sages finissent mal, proféra le notaire qui s'était mis debout devant le poêle et relevant les basques de son habit, se chauffait les jambes. En effet, continua-t-il, le jour où ils aperçoivent une femme qui leur semble moins effrontée et plus douce que les autres, il s'imagine avoir trouvé la pie au nid et va te faire fiche. La première venue les dindonne tant qu'il lui plaît, et cela quand même elle serait bête comme une oie et malhabile. Vous aurez beau dire, répliqua M. Lambois. Jules n'était pas cependant un garçon à se laisser dominer de la sorte. Dame, conclut philosophiquement le notaire, maintenant que nous avons pris de l'âge, nous ne comprenons plus comment les jeunes se laissent si facilement enjôler par les cotillons. Mais lorsqu'on se reporte au temps où l'on était plus ingambe, les jupes nous tournaient aussi la tête. Vous qui parlez, vous n'avez pas toujours laissé votre part aux autres, hein, mon vieux Lambois ? Parbleu ! Jusqu'à notre mariage, nous nous sommes amusés, ainsi que tout le monde. Mais enfin, ni vous ni moi n'avons été assez godiches pour tomber, lâchant le mot, dans le concubinage. Évidemment. Ils se sourirent. Des bouffées de jeunesse leur revenaient, mettant une bulle de salive sur les lèvres goulues de M. Lambois, et une étincelle dans l'œil en étain du vieux notaire. Ils avaient bien dîné, bu d'un ancien vin de Risset, un peu dépouillé, couleur de violette. Dans la tiédeur de la pièce close, leur crâne s'empourprait aux places demeurées vides, leurs lèvres se mouillaient, excitées par cette entrée de la femme qui apparaissait maintenant, qu'ils pourraient se désangler, sentaient moins à l'aise. Peu à peu, ils se lancèrent, se répétant pour la 20e fois leur goût en fait de femme. Elle ne valait, au sens de M. le Ponsard, que boulettes et courtes et très finement mises. M. Lambois les préférait grandes, un peu maigres, sans atouts rares. Il était avant tout pour la distinction. La distinction n'a rien à voir là-dedans. Le chic parisien, oui, disait le notaire, dont l'œil s'allumait de flamèche. Ce qui importe avant tout, c'est de ne pas avoir au lit une planche. Et il allait probablement exposer ses théories sensuelles, quand un coucou sonnant bruyamment l'heure au-dessus de la porte l'arrêta net. Diable, fit-il, 10 heures. Ah, il est temps que je regagne mes pénates si je veux être levé assez tôt demain pour prendre le premier train. Il endossa son paletot. L'atmosphère plus fraîche de l'antichambre refroidit l'ardeur de leurs souvenirs. Les deux hommes se serrèrent la main, soucieux, sentant maintenant que les visions de femmes s'étaient évanouies, leur haine s'accroître contre cet inconnu qu'ils voulaient combattre, pensant qu'elle leur disputerait chaudement une succession à laquelle ce monument de justice qu'ils révéraient à l'égard d'un tabernacle, le code, leur donnait droit. Chapitre 2. Maître Le Ponsard était établi depuis 30 années, notaire à Beauchamp, une petite localité située dans le département de la Marne. Il avait succédé à son père, dont la fortune, accrue par certaines opérations d'une inquiétante probité, avait été dans les lentes Loirées de la province un inépuisable aliment de commérage. Une fois ses études terminées, M. Le Ponsard, avant de retourner au pays, avait passé à Paris quelque temps chez un avoué où il s'était initié aux plus perfides minuties de la procédure. D'instinct déjà très équilibré, il était l'homme qui dépensait sans trop lésiner son argent jusqu'à concurrence de telles sommes. S'il consentait pendant son stage à Paris à gaspiller tout en partie fine, s'il ne liardait pas trop durement avec une femme, il exigeait d'elle en échange une redevance de plaisir tarifiée suivant un barème amoureux, établi à son usage. L'équité en tout, disait-il, et comme il payait pièces en poche, il croyait juste de faire rendre à son argent un taux de joie usuraire, réclamait de sa débitrice un tant pour cent de caresses, prélevait avant tout un escompte soigneusement calculé d'égards. À ses yeux, il n'y avait que la bonne chère et les filles qui puissent représenter en valeur la dépense qu'elles entraînaient. Les autres bonheurs de la vie dupaient, n'équivalaient jamais à l'allégresse que procure la vue de l'argent, même inactif, même contemplé au repos dans une caisse. Aussi usait-il constamment des petits artifices usités dans les provinces où l'économie a la ténacité d'une lèpre. Il se servait de bobéchons, de brûle-tout, afin de consumer ses bougies jusqu'à la dernière parcelle de leur mèche, faisait, ne pouvant supporter sans étourdissement, le charbon de terre et le coq de ces petits feux de veuve ou de bûches isolées rougeoies à distance, sans chaleur et sans flamme, courait toute la ville pour acquérir un objet à meilleur compte, et il éprouvait une satisfaction toute particulière à savoir que les autres payaient plus cher, faute de connaître les bons endroits qu'ils se gardaient bien du reste de leur révéler, et il riait sous cap, très fier de lui, se jugeant très madré, alors que ses camarades se félicitaient devant lui d'aubaine qui n'en était point. De même que la plupart des provinciaux, il ne pouvait aisément, dans un magasin, tirer son porte-monnaie de sa poche. Il entrait avec l'intention bien arrêtée d'acheter, examinait méticuleusement la marchandise, la jugeait à sa convenance, la savait bon marché, de meilleure qualité que partout ailleurs, mais au moment de se décider, il demeurait hésitant, se demandant s'il avait bien réellement besoin de cette emplette, si les avantages qu'elle présentait étaient suffisants pour compenser la dépense. De même encore que la plupart des provinciaux, il n'eût point fait laver son linge à Paris par crainte des blanchisseuses qui le brûlent, dit-on, au chlore. Il expédiait le tout en caisse par le chemin de fer à Beauchamp, parce que, comme chacun sait à la campagne, les blanchisseuses sont loyales et les repasseuses inoffensives. En somme, ces penchants charnels avaient été les seuls qui fussent assez puissants pour rompre jusqu'à un certain point ses goûts d'épargne. Singulièrement circonspect, lorsqu'il s'agissait d'obliger un ami, Maître Le Ponsard n'eût pas prêté la plus minime somme à l'aveuglette. Mais plutôt que d'avancer 100 sous à un camarade qui mourait de faim, il eût, en admettant qu'il puisse se dérober à ce service, offert de préférence à l'emprunteur un dîner de 8 francs, car il prenait au moins sa part du repas et tirait un béné, fils quelconque de sa dépense. Son premier soin, quand il revint à Beauchamp, après la mort de son père, fut d'épouser une femme riche et laide. Il eut d'elle une fille également laide, mais malingre, qu'il maria toute jeune à M. Lambois, qui atteignait alors sa 25e année et se trouvait déjà dans une situation commerciale que la ville qualifiait de conséquente. Devenu veuf, Maître Le Ponsard avait continué d'exploiter son étude, bien qu'il ressentît souvent le désir de la vendre et de retourner se fixer à Paris, où la supercherie de ses adroites prévenances ne se fût pas ainsi perdue dans une atmosphère tout à la fois langineuse et tiède. Et pourtant, où eût-il découvert un milieu plus propice et moins hostile ? Il était le personnage le plus considéré de ce Beauchamp qui ne lui marchandait pas son admiration en laquelle entrait, pour dire vrai, du respect et de la peur. Après les éloges qui accompagnaient généralement son nom, cette phrase corrective se glissait d'habitude. « Oh, c'est égal, il fait bon d'être de ses amis. » Et des hochements de tête laissaient supposer que Maître Le Ponsard n'était point un homme dont la rancune demeurait inactive. Son physique seul avertissait, tout en les déconcertant, les moins prévenus. Son teint aqueux, ses pommettes vergées de fil rose, son nez en biseau relevé du bout, ses cheveux blancs enroulés sur la nuque et couvrant l'oreille, ses laborieuses épaules de vigneron, sa familiarité bedaine de curé gras, attirait par leur bonhomie, incitait d'abord à se confier à lui, presque à lui taper gaiement sur le ventre, les imprudents que glaçait aussitôt l'étain de son regard, l'hiver de son œil froid. Au fond, nul à Beauchamp n'avait pénétré le véritable caractère de ce vieillard qu'on vantait surtout parce qu'il semblait représenter la distinction parisienne en province et qui n'avait néanmoins pas abdiqué son origine, étant resté un peu provincial malgré son séjour dans la capitale. Parisien, il l'était au suprême degré pour toute la ville, car ses savons et ses vêtements venaient de Paris et il était abonné à la vie parisienne, dont les élégances tolérées allumaient ses prunelles graves. Mais il corrigeait ses goûts mondains par un abonnement aux Moliéristes, une revue où quelques gaziers s'occupaient d'éclairer la vie obscure du grand comique. Il y collaborait, du reste, à la gaieté de Molière, et étant pour lui compréhensible, et son amour pour cette indiscutable gloire était tel qu'il mettait le bourgeois gentilhomme en vers. Ce prodigieux labeur était sur le chantier depuis 7 ans. Il s'efforçait de suivre le texte mot à mot, recueillant une immense estime de ce beau travail qu'il interrompait parfois cependant pour fabriquer des poésies de circonstances qu'il se plaisait à débiter les jours de naissance ou de fête dans l'intimité, alors qu'on portait des toasts. Provincial, oh, il l'était aussi au degré suprême, car il était tout à la fois amateur de commérage, gourmand et liardeur. Remisant ses instincts sensuels qu'il n'eût pu satisfaire sans un honteux fracas dans une petite ville, il avouait les charmes de la bonne chère et donnait de savoureux dîners tout en rognant sur l'éclairage et les cigares. Maître Le Ponsard est une fine bouche, disaient le percepteur et le maire qui jalousaient ses dîners tout en les prônant. Dans les premiers temps, ce luxe de la table et cet abonnement à un journal parisien cher faillirent outrepasser la dose de parisianisme que Beauchamp était à même de supporter. Le notaire manqua d'acquérir la réputation d'un roquentin et d'un prodigue. Mais bientôt, ses concitoyens reconnurent qu'il était un des leurs, animé des mêmes passions qu'eux, des mêmes haines. Le fait est que, tout en gardant le secret professionnel, Maître Le Ponsard encourageait les médisances, se délectait au récit des petits cancans. Puis il aimait tant le gain, vantait tant l'épargne, que ses compatriotes s'exaltaient à l'entendre, remués délicieusement jusqu'au fond de leur moelle par ces théories dont ils raffolaient assez pour les entendre quotidiennement et les juger toujours poignantes et toujours neuves. Au reste, ce sujet était pour eux intarissable. Ici, là, partout, l'on ne parlait que de l'argent. Dès que l'on prononçait le nom de quelqu'un, on le faisait aussitôt suivre d'une énumération de ses biens, de ce qu'il possédait, de ce qu'il pouvait attendre. Les purs provinciaux citaient même les parents morts, narraient des anecdotes autant que possible malveillantes, scrutaient l'origine des fortunes, les pesaient à 20 sous près. Ah, c'est une grande intelligence doublée d'une grande discrétion, disait l'élite bourgeoise de Beauchamp. Et quel homme distingué, ajoutaient les dames. Quel dommage qu'il ne se prodigue pas davantage, reprenait le cœur, car Maître Le Ponsard, malgré les adulations qui l'entouraient, se laissait désirer, jouant la coquetterie afin de maintenir instinct son prestige. Puis souvent, il se rendait à Paris pour affaires, et à Beauchamp, la société qui se partageait les frais d'abonnement du Figaro demeurait un peu surprise que cette feuille n'annonçât point l'entrée de cet important personnage dans la métropole, alors que sous la rubrique « Déplacements et villégiatures », elle notait spécialement chaque jour les départs et les arrivées dans nos murs des califes de l'industrie et des hobereaux, au vif contentement du lecteur qui ne pouvait certainement que s'intéresser à ces personnes dont il ignorait la plupart du temps jusqu'au nom. Cette gloire qui rayonnait autour de Maître Le Ponsard avait un peu rejailli sur son gendre et ami, M. Lambois, ancien bonnetier, établi à Reims et retiré après fortune faite à Beauchamp. Veuf de même que son beau-père, et n'ayant aucune étude à gérer, M. Lambois occupait son oisiveté dans les cantons où il s'enquérait de la santé des bestiaux et de l'ardeur à naître des céréales. Il assiégeait les députés, le préfet, le sous-préfet, le maire, tous les adjoints en vue d'une élection au Conseil général, où il voulait se porter candidat. Faisant partie des comités électoraux, empoisonnant la vie de ses députés qu'il harcelait, bourrait de recommandations, chargeait de courses, il pérorait dans les réunions, parlait de notre époque qui se jette vers l'avenir, affirmait que le député mis sur la sellette était heureux de se retremper dans le sein de ses commettants, prenait l'imposante majesté du peuple réuni dans ses comices, qualifiait d'armes pacifiques le bulletin de vote, citait même quelques phrases de M. de Tocqueville sur la décentralisation, débitait 2 heures durant sans cracher ces industrieuses nouveautés dont l'effet est toujours sûr. Il rêvait à ce mandat de conseiller général, ne pouvant encore briguer le siège de son député qui n'était pas dupe de ses manigances et était bien résolu à ne point se laisser violer sa place. Il y rêvait, non seulement pour lui, dont les convoitises seraient exaucées, mais aussi pour son fils, qu'il destinait au sacerdoce des préfectures. Une fois que Jules aurait passé sa thèse, M. Lambois espérait bien, par ses protections, par ses démarches, le faire nommer sous-préfet et puis préfet. Il comptait même agir si fortement sur les députés qu'il le ferait placer à la tête du département de la Marne. Alors, ce serait son enfant à lui, Lambois, ex-bonnetier, retiré des affaires, qui régirait ses compatriotes et qui administrerait son département d'origine. Positivement, il eut vu dans l'élévation de son fils à un si haut grade une sorte de noblesse décernée à sa famille, dont il vantait pourtant la roture, une sorte d'aristocratie qu'on pourrait opposer à la véritable, qu'il exécrait tout en l'enviant. Mais tout cet échafaudage de désir avait croulé. La mort de son enfant avait obscurci cet avenir de vanité, brouillé cet horizon d'orgueil. Puis, il avait réagi contre ce coup, et ses ambitions familiales s'étaient reversées sur ses ambitions personnelles et s'y étaient fondues. Avec autant d'âpreté, il souhaitait maintenant d'entrer au Conseil général et soutenu par Maître Le Ponsard qui le guidait pas à pas, il s'avançait peu à peu, sans encombre, souvent à plat ventre, espérant une élection bénévole, sans concurrent sérieux, sans frais sévères. Tout marchait suivant ses voeux, et voilà que se levait la menace d'une gourgandine, ameutant la contrée autour d'un petit Lamblois, écroué dans la temporaire prison de son gros ventre. Jules a dû lui communiquer dans ses moments d'expansion mes projets, se disait-il douloureusement, le jour où il reçut la demande d'argent signée de cette femme. « Ah, c'est là notre point vulnérable, notre talon d'Achille !» soupira le notaire quand il lut cette missive. Et tous deux, malgré les principes dont ils faisaient parade, regrettaient les anciennes lettres de cachet qui permettaient d'incarcérer jadis pour de semblables motifs les gens à la Bastille. Chapitre 3. « C'est un des meilleurs moments de la vie !» râlait Maître Le Ponsard, qui avait coutumeusement déjeuné au bœuf à la mode et était maintenant assis dans la rotonde du Palais Royal, le seul endroit où, oui, de même que tout bon provincial, il s'imaginait que l'on pût boire du vrai café. Il soufflait, engourdi, la tête un peu renversée, sentant une délicieuse lassitude lui couler par tous les membres. Il avait eu de la chance. La journée s'annonçait bien. Dès 9 h du matin, il s'était rendu chez le notaire qui s'occupait à Paris des affaires de son petit-fils. Nulle trace de testament. De là, il avait couru au Crédit Lyonnais où était placé cet argent dont la perte soupçonnée troublait ses sommes. Le dépôt y était encore. Décidément, le plus dur de la besogne lui était épargné. La femme avec laquelle il allait se mesurer ne possédait à sa connaissance du moins aucun atout juridique. « Allons, ça commence sous l'heureux auspice, » murmurait-il, poussant à petite bouffée bleue la fumée de son cigare. Puis il eut ce retour philosophique sur la vie qui succède si souvent à la première torpeur des gens dont l'esprit se met à ruminer quand l'estomac est joyeux et le ventre plein. « C'est égal ce que les femmes s'entendent à gruger les hommes, » se disait-il. Et il se complaisait dans cette pensée sans imprévu. Peu à peu, elle se ramifia, s'embranchant sur chacune des qualités corporelles qui contribuent à investir la femme de son inéluctable puissance. Il songeait au festin de la croupe, au dessert de la bouche, aux entremets des seins, se repaissait de ces détails imaginaires qui finirent par se rapprocher, se fondre en un tout, en la femme même, érotiquement nue, dont l'ensemble lui suscita cette autre réflexion, aussi peu inédite que la première, dont elle n'était d'ailleurs que l'inutile corollaire. Oh, les plus malins y sont pris. Il en savait quelque chose, maître le Ponsard, dont le tempérament sanguin et la large encolure n'avaient pu s'amoindrir avec l'âge. La vue avait bien baissé après la soixantaine, mais le corps était demeuré vert et droit. Depuis la mort de sa femme, il souffrait de migraines, de menaces de congestion que le médecin n'hésitait pas à attribuer à cette perpétuelle continence qu'il devait garder à Beauchamp. La 65e année était sonnée et des désirs de paillardise l'assiégeaient encore. Après avoir eu pendant sa jeunesse et son âge mûr un robuste appétit qui lui permettait de contenter sa faim, plus par le nombre des plats que par leur succulence, des tendances de gourmet lui étaient venues avec l'âge. Mais ici encore, la province avait façonné ses goûts à son image. Ses aspirations vers l'élégance étaient celles d'un homme éloigné de Paris, d'un paysan riche, d'un parvenu qui achète du toc, veut du clinquant, s'éblouit devant les velours voyants et les gros ors. Tout en sirotant sa demi-tasse, il évoquait maintenant, comme à Beauchamp, alors qu'il digérait, assis à son bureau, devant un horizon de carton vert, ces raffinements particuliers qui le hantaient et qui dérivaient tous de cette vie parisienne qu'il recevait et lisait ainsi qu'un bréviaire en la méditant. Elle lui ouvrait une perspective de chic qui lui semblait d'autant plus désirable que sa jeunesse à Paris n'avait été ni assez inventive ni assez riche pour l'approcher. Il eut néanmoins hésité à vérifier ses opulences en s'y mêlant, car malgré ses convoitises, l'avarice native de sa race le détournait de tels achats. Il se bornait à se susciter un idéal qu'il consentait à croire inaccessible, à souhaiter simplement de le frôler, si faire se pouvait, pour le moins cher et dans des conditions les moins humiliantes possibles, car le bon sens du vieillard précis, du notaire, réfrénait cette poésie de lieu public en savourant très franchement que l'âge n'était plus où il pouvait espérer de plaire aux femmes. Sans doute, après le carême qu'il observait à Beauchamp, maître le Ponsard se croyait encore en mesure de faire honneur au repas pour peu qu'il fût procédé de caresses apéritives et disposée sur une nappe blanche, dans un service encore jeune, sans fêlure ni rides. Mais il savait par expérience aussi qu'il se trouverait forcément en face d'une invitée qui ne mangerait que du bout des lèvres et à laquelle son appétit ne communiquerait nulle fringale. Ses pensées lui revenaient surtout depuis qu'il était à Paris, seul, à l'abri des regards d'une petite ville, libre de ses actes, le porte-monnaie bien garni, la tête un peu échauffée par du faux Bordeaux. Il avait lu le dernier numéro de La Vie parisienne, et tout, depuis les histoires pralinées et les dessins dévêtus des premières pages jusqu'au boniment des annonces, l'enthousiasmait. Certes, les articles célébrant sans relâche les victoires de la cavalerie et les défaites des grandes dames l'exaltaient, bien qu'il doutât un peu que le faubourg Saint-Germain polissonnât de la sorte. Mais, plus que ces sornettes dont l'invraisemblance le frappait, la réclame précise, nette, isolée du milieu mensonger d'un conte, était pour lui ductile au rêve. Quoiqu'il fît la part de l'exagération nécessitée par les besoins de la vente, il demeurait cependant surpris et chatouillé par l'imperturbable assurance de l'annonce vantant un profit qui existait, qu'on achetait, un profit qui n'était pas en somme une invention de journaliste, un canard imaginé en vue d'un article. Ainsi, tout en l'amenant à sourire, le lait Mamilla suggérait aussitôt devant ses yeux le délicieux spectacle d'une gorge rebondie à point. L'incrédulité même qu'il pouvait ressentir en y réfléchissant pour les bienfaits si vivement affirmés de cette mixture aidait à l'emporter dans un plaisant vagabondage, car il lisait distinctement entre les lignes de la réclame la façon non écrite d'employer ce lait. Voyez l'opération en train de s'accomplir, la gorge tirée de la chemise, doucement frottée, et la nudité de ses seins, forcément plats, accélérait encore ses songeries, le menant par des degrés intermédiaires d'embonpoint à ses nénés énormes que ses mains chargées aimaient à tenir. Sa vieille âme gavée de procédures, saturée des joies de l'épargne, se défendait dans ce bain imaginatif où elle trempait, dans ce lavabo du journal où s'étalaient des rayons de parfumerie dont les étiquettes chantaient sur un ton lyrique les discutables hosannas des peaux réparées et revernies, des fronts délivrés de rides, des nez affranchis de tannes. Oh, je n'étais cessément pas fait pour vivre en popote au fond d'une province, soupirait maintenant Monsieur le Ponsard, ébloui par ce défilé d'élégance qui se succédait dans sa cervelle. Et il sourit, flatté au fond de constater une fois de plus qu'il possédait une âme de poète. Puis l'association des idées le conduisit, à propos de femme, à penser à celle qui était la cause de son voyage. Ben, « Je suis curieux de voir la Péronnelle, se dit-il. Si j'en crois l'ambois, ce serait une appétissante gaillarde aux yeux fauves, une brune grasse. Cela prouverait que Jules avait bon goût. » Il essaya de se la figurer, créant de la sorte, au détriment de la véritable femme qu'il devait fatalement trouver inférieure à celle qu'il imaginait, une superbe drôlesse dont il détailla les charmes dodus en frissonnant. Mais cette délectation spirituelle s'émoussa et il reprit son calme. Il consulta sa montre. L'heure n'étant pas encore venue de visiter les femmes de son petit-fils, il pria le garçon de lui apporter des journaux. Il les parcourut sans intérêt. Despotiquement, la femme revenait à la charge, culbutait sa volonté de se plonger dans la politique et restait seule, implantée dans son cerveau et devant ses yeux. Il s'estima lui-même ridicule, hocha la tête, regarda le café pour se distraire, puis il chercha en l'air les traces des tuyaux chargés d'amener le gaz dans d'étonnants lustres à pans de loques qui descendaient du plafond culotté comme l'écume d'une vieille pipe, s'amusa à énumérer les cuillères disposées en éventail dans une urne de maille short sur le comptoir, et pour varier ses plaisirs, il contempla par les vitres le jardin qui s'étendait presque désert à cette heure, avec ses quelques statues lépreuses, ses kiosques bigarrés et ses allées plantées d'arbres aux trombis cornus frottés de verre. Au loin, un petit jet d'eau s'élevait au-dessus d'une soucoupe, pareil à l'aigrette d'un colonel. Cela ressemblait à l'un de ces jardins de boîtes à joujoux qui sentent toujours le sapin et la colle, un jouet défraîchi le jour de l'an, serré, de même que dans une grande boîte à dominos sans couvercle entre les quatre murs de maisons pareilles. Ce spectacle le lassa vite. Il revint à l'intérieur du café. Lui aussi était à peu près vide. Deux étrangers fumaient. Trois messieurs disparaissaient derrière des journaux ouverts, ne montrant que des mains sur le papier et sous la table des pantalons d'où sortaient des pieds. Un garçon bâillait sur une chaise, la serviette sur l'épaule, et la dame du café balançait des comptes. Le vague relent de restauration mélangée de Louis-Philippe que dégageait cet endroit, plut à Maître Le Bonsard. L'âme de la vieille garde nationale, en bonnet à poil et en culotte blanche, semblait revenir dans cette armoire ronde et vitrée où les étrangers, les provinciaux qui s'y désaltéraient d'habitude ne laissaient aucune émanation d'eux, aucune trace. Il se décida pourtant à partir. Le temps était sec et froid. Ses obsessions se dissipèrent. Le notaire ressortait maintenant chez l'homme. La chicane reprenait le dessus. La digestion s'achevait. Alors il pressa le pas. Je risque peut-être de ne pas la rencontrer, murmurait-il, mais mieux valait ne pas la prévenir de ma visite. Ses batteries ne se sont sans doute pas encore montées. J'ai plus de chances de les démolir en les surprenant à l'improviste. Il trottait par les rues, vérifiant les plaques émaillées des noms, craignant de se perdre dans ce Paris qu'il ne connaissait plus. Il parvint, tant bien que mal, jusqu'à la rue Dufour, examina les numéros, fit halte devant une maison neuve. Les murs du vestibule stuqués comme un nougat, les tapis à baguettes de cuivre, les pommes en verre de la rampe, la largeur de l'escalier lui parurent confortables. Le concierge, installé derrière une grande porte à vantaux, lui sembla présomptueuse et sévère, ainsi qu'un ministre de l'Église protestante. Il tourna le bec de canne et son impression changea. Ce Petsec officiait dans une loge qui empestait l'oignon et le chou. « Mademoiselle Sophie Mouveau, » dit-il. Le concierge le toisa, et d'une voix embrumée par les 3-6, « Oh, quatrième, au fond du corridor, à droite, la troisième porte !» Maître Le Ponsard commença l'ascension, tout en déplorant le nombre exagéré des marches. Arrivé au quatrième étage, il s'épongea, s'orienta dans un couloir sombre, chercha à tâtons le long des murs, découvrit la troisième porte dans la serrure de laquelle était fichée une clé, et ne découvrant ni sonnette ni timbre, il appliqua un petit coup sur le bois avec le manche de son parapluie. La porte s'ouvrit. Une forme de femme se dessina dans l'ombre. Maître Leponsard entrait en pleine ténèbre. Il déclina son nom et ses qualités. Sans dire mot, la femme poussa une seconde porte et le précéda dans une petite chambre à coucher. Là, ce n'était plus la nuit, mais le crépuscule au milieu du jour. La lumière descendait dans une cour, large comme un tuyau de cheminée, se glissait en pente grise et sale dans la pièce, par une fenêtre mansardée sans vue. « Mon Dieu, et mon ménage qui n'est pas fait ?» dit la femme. Maître Leponsard eut un geste d'indifférence et commença. « Madame, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous l'annoncer, je suis le grand-père de Jules. En ma qualité de co-héritier du défunt et en l'absence de maître sur l'emploi dont je suis le mandataire, je vous demanderai la permission d'inventorier tout d'abord les papiers laissés par mon petit-fils. » La femme le considérait d'un air tout à la fois ahuri et plaintif. « Eh bien » fit-il. « Je ne sais pas, moi, où Jules mettait ses affaires. Il y avait un tiroir où il serrait ses lettres. Tenez, là, dans cette table. » Maître Leponsard acquiesça du chef, ôta ses gants qu'il plaça sur le rebord de son chapeau et prit place devant l'un de ces petits bureaux en acajou couleur d'orangeade, d'où l'on tire difficilement une planchette revêtue de basane. Il était déjà habitué à la brune de la pièce, et peu à peu il distinguait les meubles. Au-dessus du bureau pendait, incliné sur de la corde verte dont les nœuds passaient derrière les pitons et le cadre, une photographie de M. Thiers, semblable à celle qui paraît à la salle à manger du père à Beauchamp. Cet homme d'État étant évidemment l'objet d'une vénération spéciale dans cette famille. À gauche s'étendait le lit fourragé, avec les oreillers en tapons. À droite se dressait la cheminée pleine de flacons de pharmacie. Derrière Maître Leponsard, à l'autre bout de la pièce, s'affaissait un de ces petits canapés-lits tendus de resserreps bleus que le soleil et la poussière rendent terreux et roux. La femme s'était assise sur ce canapé. Le notaire, gêné de sentir quelqu'un derrière son dos, fit volte-face et pria la femme de ne pas interrompre à cause de lui ses opérations domestiques, l'invita à faire absolument comme si elle était chez elle, appuyant un peu sur ses expressions, préparant ainsi ses premiers travaux d'approche. Elle ne parut pas comprendre le sens qu'il prêtait aux mots et demeura assise, silencieuse, regardant obstinément la cheminée décorée de fioles. « Diable !» fit Maître Leponsard. « La matine est forte. Elle a peur de se compromettre en ouvrant la bouche. » Il lui tourna le dos, le ventre devant la table. Il commençait à s'exaspérer de cette entrée en matière. Étant admis le système qu'il présumait adopté par cette femme, il allait falloir mettre les points sur les i, marcher de l'avant à l'aveuglette, attaquer au petit bonheur un ennemi retranché qui l'attendait. Aurait-elle entre les mains un testament, se disait-il, les tempes soudain mouillées de sueur. L'extérieur de la femme qu'il avait dévisagée, en se penchant vers elle, l'inquiétait et l'irritait tout à la fois. Impossible de lire sur cette figure une idée quelconque. Elle semblait ahurie et muette. Ses yeux fauves, vantés par M. Lamblois, étaient déserts. Aucune signification précise ne pouvait être assignée à leur éclat. Tout en dépliant des liasses de lettres, Maître Leponsard réfléchissait. Le peu de bienveillance qu'il avait pu apporter avec la fin d'une heureuse digestion disparaissait. C'était au demeurant une souillon que cette fille. Bien bâtie, mais plutôt maigre que grasse, elle était vêtue d'un caraco de flanelle grise à raies marron, d'un tablier bleu, de bas de filoselle, emmanchée dans des savates au quartier rabattu et écrasé par le talon. L'indulgence instinctive qu'il eut éprouvée pour la femme qu'il s'était imaginée, pour une belle drôlesse, grassouillette et fosselue, chaussée de bas de soie et de mules en satin, sentant la venaison et la poudre fine, avait fait place à l'indifférence, même au mépris. Bon Dieu, que ce pauvre Jules était donc jeune, se disait-il en guise de conclusion. Ah, subitement, l'idée qu'elle était enceinte lui traversa d'un jet la cervelle. Il mit ses lunettes quand vieux Barbon il avait fait disparaître, alors qu'il pensait trouver une fille élégante et grasse, et brusquement il se tourna. Les hanches remontaient en effet, élargies un peu. Sous le tablier, le ventre bombait. Examinée avec plus de soin, la figure lui parut un peu tallée. Décidément, elle n'avait pas menti dans sa lettre. La femme le regardait, surprise de cette insistance à la dévisager. Maître Leponsard jugea utile de rompre le silence. « Avez-vous un bail ?» lui fit-il. « Un bail ?» « Oui, Jules a-t-il signé avec le propriétaire un engagement qui lui assure, moyennant certaines conditions, la jouissance de ce logement pendant 3, 6 ou 9 ans ?»« Non, monsieur, pas que je sache. »« Allons, tant mieux. » Il lui tourna le dos de rechef et cette fois-ci commença la besogne. Il vérifia rapidement les lettres qu'il ouvrait. Toutes étaient sans importance, ne renfermaient aucune allusion à cette femme dont les antécédents inconnus le poursuivaient. D'autres liasses ne le renseignèrent pas davantage. Il se contenta de noter l'adresse des gens qui les avaient signés, se réservant de leur écrire, de les consulter si besoin était, en dernier ressort. Enfin, il scruta un paquet de factures acquittées, classées à part. Celui-là, il le mit aussitôt dans sa poche. En somme, aucun papier n'était là qui pût l'éclairer sur les volontés du défunt. Mais qui sait si cette femme n'avait pas enlevé un testament qu'elle se réservait de montrer au moment propice. Il était sur des épines, exaspéré contre son petit-fils et contre cette fille. Il résolut de sortir de cette incertitude qui ajournait la mise en œuvre de son plan, et il hésitait néanmoins à poser brutalement la question, appréhendant de laisser voir la partie faible de son attaque, d'avouer sa crainte, redoutant ainsi de mettre la femme sur une voie à laquelle elle n'avait peut-être jamais pas sérieusement songé. « Bon, ce serait en tout cas improbable, murmura-t-il, se répondant à cette dernière objection. » Et il se détermina. « Voyons, ma chère enfant !» Et ce ton paternel étonna Sophie, que glaçait en même temps l'œil taciturne de ce notaire. « Voyons, vous êtes bien sûr que notre pauvre ami n'a pas conservé d'autres papiers. Car à nouveau rien se l'est, je suis surpris de ne pas découvrir un bout de mot, une ligne, qui étreint à ses amis. » Généralement, quand on a du cœur, et mon cher Jules en était absolument pourvu, on lègue un petit cadeau, une babiole, un rien, ce couteau par exemple, ou cette pelote, enfin, un souvenir aux personnes qui vous aimaient. Mais comment peut-il se faire qu'ayant eu tout le temps nécessaire pour prendre ses dispositions, Jules soit mort ainsi, égoïstement, pour lâcher le mot, sans penser aux autres? Il fixait attentivement la femme. Il vit les larmes qui lui emplirent soudain les yeux. Mais vous qui l'avez soigné avec tant de dévouement, il est impossible qu'il vous ait oublié. Et il eut un ton de chaleur presque indignée. Tant pis, se disait-il, je joue le tout pour le tout. Les pleurs aperçus l'avaient en effet brusquement décidé. Elle s'attendrit. Elle va tout avouer, si je la presse, pensa-t-il. Et il renversait sa tactique, posait, contrairement à ce qu'il avait d'abord arrêté, la question nette mais adoucie, maintenant à peu près certain d'ailleurs que la femme ne détenait aucun testament, car il ne songeait même point qu'elle pût pleurer au souvenir de son amant, et il attribuait sans hésiter son chagrin au regret de ne pas posséder ce titre. Oui, monsieur, dit-elle en essuyant ses yeux, quand il a été bien malade, Jules voulait me laisser de quoi m'établir, mais il est mort avant d'avoir écrit. La jeunesse est tellement inconsidérée, proféra gravement M. le Ponsard. Et il se tut pendant quelques minutes, dissimulant l'intense jubilation qu'il ressentait. Il avait un poids de 100 kilos de moins sur la poitrine. Les atouts affluaient dans ses cartes. Toi, je vais te faire chelem, mais sans plus tarder, se dit-il. Il se leva, marcha de long en large dans la pièce d'un air préoccupé, regardant en dessous Sophie qui demeurait immobile, roulant son mouchoir entre ses doigts. Non, mais il manquait de raffinement, mon petit-fils, car elle est singulièrement rustique, la brave fille. Et il lorgnait ses mains un peu grosses, à l'index poivré par la couture, aux ongles dépolis par le ménage et crénelés par la cuisine. Mal mise, sans aucun chic, la poupée à jaleton, pensait-il. Sans même qu'il s'en rendît compte, cette constatation aggravait auprès de lui la cause de la femme. Les cheveux mal peignés qui lui tombaient sur les joues l'incidèrent à se montrer brutal. Mademoiselle, et il s'arrêta devant elle, il faut que je vienne pourtant au fait. Monsieur Lamboy, tout en reconnaissant les bons soins que vous avez prodigués à son fils, à titre de bonne, ne peut naturellement admettre que cette situation se perpétue. Je vais donner congé à ce logement aujourd'hui même, car nous sommes le 15 et il est temps. Demain, je ferai emporter les meubles. Reste la question pécuniaire qui vous concerne. Monsieur Lamblois a pensé, et cet avis est le mien, qu'étant donné les laborieuses qualités dont vous avez fait preuve, Jules ne pouvait avoir une servante aussi dévouée à moins de 45 francs par mois, prix fort comme vous ne l'y aurez pas à Paris. Car nous autres campagnards, ajouta le notaire entre parenthèses, nous avons chez nous des domestiques à un prix beaucoup moindre, mais peu importe. Donc, nous sommes le 15, c'est 15 jours plus 8 d'avance que je vous dois, soit 33 francs 75 centimes, si je sais compter. Veuillez bien me signer le reçu de cette petite somme. Effarée, la femme se leva, Mais monsieur, je ne suis pas une bonne. Vous savez bien comment j'étais avec Jules. Je suis enceinte, j'ai même écrit. Pardonnez-moi de vous interrompre, dit maître le Ponsard. Si j'ai bien compris, vous étiez la maîtresse de Jules. Ah, alors c'est une autre paire de manches. Vous n'avez droit à rien du tout. Elle demeura abasourdie par ce coup droit. Alors comme ça, fit-elle en suffoquant, vous me chassez sans argent, avec un enfant que je vais avoir? Oh, du tout, mademoiselle, du tout. Vous déplacez la question. Je ne vous chasse point en tant que maîtresse. Je vous donne vos 8 jours en tant que bonne, ce qui n'est pas la même chose. Voyons, écoutez-moi bien. Vous avez été présentée en qualité de servante par Jules à son père. Tout le temps que M. Lambois est resté ici, vous avez joué ce rôle. M. Lambois ignore donc, ou est du moins censé ignorer, les relations que vous entreteniez avec son fils. Étant actuellement souffrant, retenu chez lui par une attaque de goutte, il m'a chargé de venir à Paris en son lieu et place, afin de régler les affaires laissées pendantes de la succession, et nécessairement, il a résolu de se priver des services d'une bonne, puisque la seule personne qui pouvait les utiliser n'est plus. Sophie éclata en sanglots. Mais je l'ai pourtant soigné. J'ai passé les nuits, je le referais encore, si c'était à refaire, car il m'aimait bien. Ah, lui, il avait bon cœur. Il se serait plutôt privé de tout que de me mettre dans la peine. Non, pour sûr, ce n'est pas lui qui aurait chassé une femme qui l'aurait mise enceinte. Oh, cette question-là, nous la laisserons de côté, fit assez vivement le notaire. En admettant, comme vous le prétendez, que vous soyez grosse des œuvres de Jules, ce n'est pas, vous en conviendrez, à un homme de mon âge qu'il appartient de sonder les mystères de votre alcôve. Je me récuse absolument pour cette besogne. Au fait, reprit-il frappé d'une idée subite, vous êtes grosse de combien de mois ?
De 4 mois, monsieur.
Maître le Ponsard parut méditer. 4 mois, mais Jules était déjà malade et par conséquent, il devait s'abstenir, par raison de santé, de ces rapprochements que les personnes bien portantes peuvent seules se permettre. Il y aurait donc présomption pour que ce ne fût pas lui.
« Il n'était pas au lit il y a 4 mois !» s'écria Sophie, indignée de ses suppositions. « Le médecin n'était même pas venu. Oh, puis il m'aimait bien. Et... »
Maître le Ponsard étendit la main. « Bien, 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 cela suffit, » fit-il, et un peu vexé d'avoir fait fausse route et de n'avoir pu, avec le chiffre des mois, confondre la femme. Il ajouta aigrement... Je me doutais déjà que les excès avaient dû causer la maladie et hâter la mort de Jules. Maintenant, j'en ai la certitude. Quand on n'est pas plus fort que n'était le pauvre garçon, c'est véritablement malheureux de tomber sur une personne qui est, trop bien portante, trop brune, fit-il, très satisfait de cette dernière épithète, qui décimait à la fois concluante et exacte. Sophie le regarda, stupéfiée par cette accusation. Elle n'avait même plus le courage de répondre, tant les actes qu'on lui reprochait lui semblaient inouïs. Cette idée qu'on pouvait imputer à son affection la mort de cet homme qu'elle avait soigné jours et nuits la terra.
Elle étrangla, puis ses larmes qui semblaient taries s'écoulèrent de plus belle. Pendant ce temps, le notaire se faisait cette réflexion que ses pleurs ne l'embellissaient pas. Ce ventre qui sautait dans la saccade des sanglots lui parut même grotesque. Cette réflexion ne le disposait pas à la clémence. Cependant, comme le désespoir de la malheureuse augmentait, qu'elle pleurait maintenant à chaudes larmes, la tête entre les mains, il s'amollissait un peu et s'avouait intérieurement qu'il était peut-être cruel de jeter ainsi une femme sur le pavé en quelques heures. Il s'irrita, mécontent de lui, mécontent tout à la fois de l'action qu'il allait commettre et du semblant de pitié qu'il éprouvait. Involontairement, il cherchait un argument décisif qui lui rendit cette créature plus odieuse, un argument qui enforcit et justifia sa dureté, qui le débarrassa du soupçon de malaise qu'il sentait poindre. Il posa deux questions, mais trichant avec lui-même afin d'aider à se convaincre et d'obliger la femme à répondre dans le sens qu'il espérait, il plaida le faux pour savoir le vrai. « En résumé, ma chère enfant, fit-il, je n'ignore pas la façon dont mon petit-fils vous a connu. Certes, cela n'ose rien, vous mérite, mais, permettez-moi de vous le dire, il n'a pas été le premier qui ait défloré ses charmants appas. » Et il salua galamment de la main, de sorte que, comme nous disons, nous autres hommes de loi, là où il n'y a pas eu de préjudice, il ne saurait y avoir de réparation. Sophie continuait à pleurer doucement. Elle ne répondit point. Bien, pensa Maître Le Ponsard, elle ne proteste pas, donc j'ai touché juste. Jules n'a pas été son premier amant. Et d'une. En second lieu, reprit-il, vous pensiez bien, n'est-ce pas, que la situation irrégulière dans laquelle vous viviez avec mon petit-fils ne pouvait durer. D'une façon ou d'une autre, elle se serait rompue. Ou Jules aurait été nommé sous-préfet dans une province, et il se serait honorablement et richement marié, ou, pour une cause que l'avenir eût pu seul nous apprendre, il vous eût quitté ou eût été quitté par vous. Dans ces deux cas, votre liaison aurait forcément pris fin. « Oh non, monsieur !» fit-elle vivement en levant sa tête. « Non, Jules ne m'aurait pas abandonné. Il aurait épousé la mère de son enfant. Il me l'a dit combien de fois ?»« Allons donc, Mathilde, murmura le notaire. Voilà ce que je voulais te faire avouer. » Cette fois, ses scrupules se mettaient à couvert. Cette fille, qui n'avait pas l'excuse de s'être livrée vierge à son petit-fils, nourrissait le projet de se marier. « C'est un comble, se répétait-il. Nous aurions eu ce torchon-là dans notre famille. » Il resta déconcerté. En une rapide vision, il aperçut Jules amenant cette femme, traversant la localité, tout entière sur ses portes, entrant au milieu de la famille consternée par cette mésalliance. Il aperçut cette femme sans tenue, ne sachant ni manger ni s'asseoir, lâchant des coqs à l'âne, promettant sa situation par le ridicule de sa vie présente et la famille de sa vie passée. Ah, bien nous l'avons échappé belle. Sa résolution était du coup inébranlable. « Voulez-vous signer, oui ou non, ce reçu ? » dit-il d'un ton bref. Elle refusa d'un geste. « Faites bien attention. Je vous ouvre une porte de sortie, vous la refusez. Prenez garde que moi-même je ne la ferme. » Puis voyant qu'elle persistait à se taire, Il ravala sa colère, se croisa les bras et reprit d'une voix paterne. « Croyez-moi, ne soyez pas mauvaise tête. D'abord, cela ne vous avancerait à rien. Réfléchissez. Si vous refusez de signer ce reçu, que va-t-il se passer? Vous allez vous trouver sur le pavé, sans sou ni maille, sans le temps de vous retourner pour en avoir. Voyons, dans l'intérêt même de ce petit innocent que vous portez dans vos entrailles, ne vous entêtez pas à rejeter cette offre qui est la seule acceptable, car elle concilie les intérêts des deux parties. Allons, un bon mouvement. » Il lui mit le reçu sous le nez. Elle le repoussa de la main. « Non, je ne signerai pas, nous verrons. Après tout, je veux élever son enfant qui est le mien. » Oh, demandez-moi tout de suite de le tenir sur les fonds baptismaux et de payer les mois de nourrice, dit maître le Ponsard, qui goguenarda presque dans cette prétention lui parut baroque. Mais ma chère, la recherche de la paternité est interdite. Il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour savoir cela. Eh bien, allez, nous décidons-nous, car le temps presse. Pour la seconde et dernière fois, je vous le répète, ou vous êtes la bonne de Jules, auquel cas vous avez droit à une somme de 33 francs 75 centimes, ou vous êtes sa maîtresse, auquel cas vous n'avez droit à rien du tout. Choisissez entre ces deux situations, celle qui vous semblera la plus avantageuse. Et ça s'appelle un dilemme où je ne m'y connais pas, fit-il très satisfait en aparté. Il prit son parapluie et son chapeau. Sophie s'exaspéra. C'est bien, je vais voir ce qui me reste à faire, cria-t-elle. Oh, rien, belle dame, croyez-moi. En attendant, vous avez jusqu'à demain midi pour réfléchir. Passé ce délai, je pars en levant les meubles et je remets la clé du logement au propriétaire. La nuit porte conseil. Laissez-moi espérer qu'elle vous profitera et que demain, vous serez revenu à des idées plus sages. Et poliment, il la salua et l'invita ironiquement, en la voyant immobile comme pétrifiée, à ne point se déranger pour le reconduire, et il ouvrit et referma, en homme bien élevé, tout doucement, la porte.